Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le pianiste Nelson Görner. Bonjour Nelson.
Bonjour Frédéric.
Alors je résume votre parcours. Vous êtes l'un des solistes en activité les plus passionnants. Vous êtes né à San Pedro en Argentine. Vous obtenez à 17 ans le premier prix du concours Franz Liszt de Buenos Aires, ce qui vous permet de bénéficier d'une bourse pour étudier auprès de la grande Maria Tipo au conservatoire de Genève. À 21 ans, vous remportez le premier prix du concours de cette ville. Depuis, vous vous produisez avec des orchestres prestigieux comme le Philharmonia Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de la Suisse romande ou le NHK Symphony Orchestra de Tokyo. Vous travaillez avec des chefs d'orchestre de renommée mondiale comme Neem et Paavo Järvi, Sir Mark Elder, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Ashkenazy et Philippe Hervéque. Musicien de chambre accompli, vous vous produisez avec Martha Argerich, Janine Janssen, Steven Isserlis ou Teddy Papavrami. Après un concert à Flagey, le site Res Musica écrit à votre propos « Pianiste stratosphérique et musicien purement génial, éminent chopinien, il joue d'ombre et de lumière ». Alors je vous propose de nous plonger directement dans votre art en écoutant Chopin justement et son nocturne en mi bémol majeur opus 9 dans votre interprétation.
Thank you.
C'était le nocturne en si bémol majeur opus 9 dans l'interprétation de notre invité Nelson Görner. L'intégrale des nocturnes dans votre interprétation est disponible chez Alpha Classique. Alors dites-nous Nelson, que représente la musique de Chopin dans votre vie?
Ah, ça représente énormément de choses, énormément. Bon, comme tout jeune pianiste, je me suis mis à aimer passionnément la musique de Chopin de mon plus jeune âge, même si mes professeurs m'ont plutôt fait travailler Bach et Haydn, les classiques.
Et quelle était la première œuvre de Chopin que vous avez étudiée? Est-ce que vous en avez un souvenir?
Oui, bon, j'ai étudié sans professeur, hein, parce qu'on ne me donnait pas, comme je viens de dire, tout de suite à travailler les œuvres de Chopin. Donc j'ai commencé à déchiffrer une étude, une valse.
Donc voilà. C'est comme ça que ça a commencé, oui, de manière
empirique.
C'est
comme ça que ça a commencé, oui. Et puis après, mon deuxième professeur en Argentine, Juan Carlos Arabian, il m'a donné à travailler les 24 préludes pour une première approche de cette œuvre qui est colossale.
Et alors, quel interprète de Chopin ancien ou moderne vous a inspiré dans cette œuvre?
Alors à l'époque, moi j'étais très séduit par Rubinstein et par Lipati, hein. Et ça reste de nos jours, pareil. Ce sont deux pianistes qui me fascinent. Mais l'un des premiers disques que j'ai eu entre les mains, c'était l'intégrale des Nocturnes de Chopin par Arthur Rubinstein. Donc je suis très lié à... Il y a des souvenirs très forts qui me lient à ce répertoire et à l'interprétation de Rubinstein. Et puis j'ai eu un peu plus tard les valses avec Dino Lipati, le célèbre enregistrement qu'on connaît tous. Et ensuite, il y a eu d'autres pianistes que j'ai adoré dans ces répertoires, comme par exemple Ignaz Friedman ou Joseph Hoffmann, tous les plus grands. Rachmaninoff, comme il jouait la deuxième sonate, l'opus 35, de manière inimitable, grandiose.
Alors je vous propose de continuer à vous écouter avec ce très bel enregistrement de la première sonate en La majeur opus 13 de Gabriel Fauré. Teddy Papavrami est au violon. Thank you. L'Allegro molto de la première sonate en la majeure opus 13 de Gabriel Fauré, Teddy Pavavrami était au violon et notre invité Nelson Körner au piano. Dites-nous Nelson, comment avez-vous fait la rencontre de Teddy Pavavrami?
C'était une rencontre comme ça très spontanée puisque nous avions des amis communs. Et moi, j'enseignais déjà à la Haute École de Musique de Genève et Teddy, et il est venu peu de temps après aussi pour prendre la chaire de violon dans cette institution. Et depuis ce moment-là, il y a une très belle amitié entre nous et beaucoup de complicité musicale, dont ce disque est un peu le fruit hein, de ce parcours, de cette complicité, de ce plaisir que l'on a à jouer ensemble.
Et qu'est-ce qui vous séduit dans son jeu, dans sa manière de jouer?
Moi, je trouve que Teddy, c'est un musicien très complet parce qu'il a à la fois un grand intellect, une grande rigueur, mais en même temps, il a une expressivité à fleur de peau. Il a vraiment des qualités hautement expressives, hein, très intenses. Et entre nous, bon, on ne répète pas beaucoup. On travaille, certes, mais on ne se met pas à décortiquer chaque mesure parce que, d'une certaine manière, moi, je trouve que on se retrouve tout de suite. Je ne sais pas, il y a un contact
d'osmose
qui est facile, oui, une sorte d'osmose, je dirais, oui.
Alors, vous avez étudié avec Maria Tipo, qui est l'une des voix les plus personnelles et les plus originales de l'art du piano. Qu'avez-vous retenu de son enseignement?
Ah, énormément de choses j'ai retenu de son enseignement parce que c'était 3 ans... très, très importante dans ma formation. Et quand je l'ai connue, elle m'a fait une très forte impression, à la fois humainement et du point de vue de l'immense pédagogue qu'elle était. Alors, il y a des répertoires qui restent pour moi très liés à son enseignement et à la façon dont elle le transmettait. Par exemple, je pense aux sonates de Scarlatti, qu'elle jouait d'une manière incomparable, mais aussi à beaucoup d'œuvres de Chopin. Elle était moins connue dans ce répertoire, mais ses interprétations étaient tout aussi passionnantes que celles qu'elle faisait de Scarlatti ou de Clementi, par exemple.
C'était un personnage sévère?
Elle pouvait l'être, oui.
Elle
était d'une grande rigueur envers ses élèves, oui. Je crois qu'on a tous eu une fois où on a quand même failli pleurer dans sa classe.
Ah, vraiment? Carrément.
Parce qu'elle avait l'idée aussi qu'un professeur devait en imposer, qu'il devait faire un peu peur.
Ah, oui, donc,
mais alors, en même temps, elle était toujours très, très attachante. Et elle s'occupait de nous, vraiment, pas seulement dans notre développement musical, mais il y avait ce contact humain qui est essentiel pour que le courant passe.
Est-ce qu'elle favorisait une certaine spontanéité? Parce que quand on l'écoute, c'est très, très libre la manière dont elle... C'est une interprète très, très libre. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle tentait de vous communiquer également?
Ah, elle favorisait plutôt, oui. Elle essayait que l'élève puisse développer ce qu'il avait en lui plutôt que d'instiller continuellement ce qu'elle voulait entendre. Alors, il y a des choses sur lesquelles elle ne transigeait pas. Et ça, c'était évidemment la rigueur avec les textes et l'étude approfondie. Mais je me souviens toujours que quand on avait une idée qui pouvait être différente de la sienne, si votre idée était convaincante, elle était très contente. C'est pas qu'elle contestait votre interprétation.
Alors, aujourd'hui, vous êtes professeur à la Haute École de Musique Genève-Neuchâtel. Quel est le principal message que vous cherchez à transmettre à vos étudiants?
Alors, j'essaye de transmettre un peu ce que mes professeurs m'ont transmis. Je n'inclus pas seulement Maria Tipo, mais mes professeurs en Argentine, qui étaient tout aussi remarquables. Alors, moi, j'ai travaillé avec 3 étudiants de Vincenzo Scaramuzza, qui était le grand professeur en Argentine. Et donc, mon premier maître, Jorge Garruba, le deuxième que je viens de citer à propos des Nocturnes de Chopin, Juan Carlos Saraviani et Carmen Scalcione, qui était une grande pianiste. Alors, tous les trois, ils avaient une façon très saine d'aborder les claviers. On ne parlait pas beaucoup de carrière ou de succès, mais on se concentrait, je crois, sur ce qui est essentiel, de comment s'améliorer, comment devenir un artiste, hein, comment développer une personnalité. Et c'est ça qui m'intéresse quand j'ai quelqu'un en face de moi, qu'il devient mon élève. Alors, j'essaye de... J'essaye de tirer le meilleur parti possible de ces possibilités. Là où il y a des lacunes, j'essaye aussi de les combler. Mais encore une fois, je n'essaye pas de le faire jouer à ma manière, mais plutôt à la sienne.
C'est de trouver son goût.
Oui, son goût et son expression musicale. Parce que si quelqu'un est doué, cette expression musicale, elle sera là. Elle sera peut-être latente ou subjacente, mais elle sera là déjà. Alors il s'agit de la percevoir et de voir où l'élève veut en venir. Même s'il s'exprime un peu maladroitement,
Je comprends.
il faut justement essayer de lui donner les moyens. Et c'est ça qui m'intéresse.
Alors, je vous propose d'écouter justement Maria Tipo dans le menuet 1 et 2 de la première partita en si bémol de Jean-Sébastien Bach. Maria Tipo interprétait le menuet 1 et 2 de la première partita en si bémol de Jean-Sébastien Bach. Alors Nelson, comment expliquez-vous que l'Argentine ait fourni tellement de grands pianistes? Alors on connaît les grands footballeurs, mais les grands pianistes, on pense aussi à Martha Argerich, à Daniel Barenboim, à vous-même, à Bruno Leonardo Gelbert. Comment expliquez-vous ce foisonnement de très 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 grands musiciens?
Alors, je crois que on a beaucoup bénéficié de quelques grands maîtres qui sont venus s'installer en Argentine.
Vous parliez de Scaramouche.
Oui, et lors de courants migratoires qu'on a reçus dans les pays. Et l'un d'eux est peut-être le plus remarquable, certainement le plus remarquable, c'était Scaramouche, oui, qui a vraiment fondé l'école. Il est arrivé très jeune en Argentine, au début du XXe siècle. On lui avait donné une classe de piano complémentaire au conservatoire à Naples, ça ne l'avait pas beaucoup séduit. Ce qu'on comprend, vu que c'était quelqu'un d'une trempe quand même supérieure. Et voilà, il a décidé de se consacrer tout entier à l'enseignement, malgré qu'il avait des moyens pianistiques, paraît-il, assez hors du commun. Alors, mais il avait aussi un très grand trac.
Parmi ses élèves, il y avait Martha Argerich.
Oui.
Alors, vous avez la chance de vous produire. Je pense que c'est même une de vos amies. Comment avez-vous fait ça?
Une grande amie.
Une grande amie.
Oui.
Comment avez-vous fait sa rencontre?
C'est quelqu'un que j'adore. Et avant de la connaître, bon, j'étais bien sûr en admiration devant son art. Et je connaissais quelques disques. Et ensuite, quand, c'était dans l'année 86, quand elle a effectué son retour en Argentine, j'ai eu l'occasion de l'entendre en chair et en os. Et ça, c'était une expérience inoubliable. Je me souviens même maintenant de comment c'était.
Et vous avez été la voir après le concert?
Non, pas après le concert, mais très peu de temps après, quelques jours à peine après, et il y a eu une réunion qui s'est faite avec Martha et quelques étudiants du piano dont je faisais partie, et j'ai eu la chance de pouvoir jouer pour elle.
Et ça, c'était le début de l'amitié? C'est là que ça
a
commencé?
Oui, c'est depuis ce moment-là, oui. On ne s'est plus quitté depuis.
Alors, quel mot vous viendrait à l'esprit pour la décrire?
Et spontanéité, jeunesse éternelle. Elle a aussi un immense savoir, à la fois le savoir-faire quant au jeu du piano, mais le savoir qui vous vient de l'intuition, qui est le vrai, en fait.
Et elle est très modeste avec son savoir, en plus.
Et elle est très, très modeste, oui. Oui. Elle vous demande tout le temps, qu'est-ce que tu as pensé, comment c'était, à peine elle finit un concert. Oui. Et on est ébloui, mais elle veut être rassurée.
Oui, je pense que
c'est... Et ça, c'est justement, cette fragilité, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. Il n'y a jamais le ou la grande pianiste qui est sur un piédestal et que, voilà, elle reçoit les honneurs, mais qui se remet toujours en question. Et c'est comme ça qu'elle a pu garder, je pense, hein, c'est comme ça que je me l'explique, cette fraîcheur.
Je suis d'accord avec vous. Je pense aussi que c'est...
C'est la remise en question qui vous aide à toujours progresser et à ne pas régresser, justement, à ne pas rester sur ce qui est acquis.
Alors, vous êtes connu pour posséder une des techniques pianistiques les plus accomplies. Est-ce que vous continuez néanmoins encore aujourd'hui à apprendre des choses sur l'art du piano?
Énormément.
Énormément.
Oui. Et je crois que si je m'arrêtais, il y a quelque chose qui ne jouerait pas. Parce que l'art du piano, il est complexe, il est fascinant. Il n'est jamais trop tard pour découvrir soit un nouvel accent, une nouvelle inflexion, un coup de pédale différent de ce que vous avez fait pendant des années sur une œuvre que vous jouez pourtant depuis très longue date. Et tout ça, ça passe par un savoir-faire pianistique. C'est à la fois une expérience et musicale et pianistique. Donc, on continue à apprendre.
C'est une recherche constante.
Constante, oui. Et puis, il y a des choses que tout d'un coup se dévoilent à vous.
Alors, est-ce qu'il y a encore des œuvres que vous estimez devoir encore apprendre?
Est-ce que... Oui, beaucoup.
Oui, il y a beaucoup de choses que vous oubliez.
Alors, par exemple, ça fait longtemps que je flirte dans ma tête avec les variations Goldberg de Bach, mais je ne me décide pas pour autant. Et alors ça, j'interprète de la façon suivante. J'interprète ça en me disant, si je ne me décide pas encore, ça veut dire que je ne suis pas encore prêt, j'attends que le moment vienne.
Alors vous venez de sortir ce mois-ci le burlesque de Richard Strauss avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui est placé sous la direction de Mikko Frank, dont je vous propose d'écouter un extrait maintenant. Thank you. Nelson Görner interprétait le burlesque de Richard Strauss. L'Orchestre philharmonique de Radio France était placé sous la direction de Mikko Franck. Il s'agit d'une parution Alpha Classique. Alors Nelson, nous avons comme tradition dans Appassionato de vous convier à nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre?
Alors j'ai choisi l'un des nocturnes de Chopin. Justement, on a parlé tout à l'heure d'un de mes premiers disques, celui d'Arthur Rubinstein.
Alors, on va l'écouter maintenant. Thank you. Nous venons d'écouter le Nocturne numéro 1, opus 37, interprété par Arthur Rubinstein. Il s'agissait du choix de notre invité, Nelson Görner. Votre rendez-vous musical appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup, Nelson Görner, d'avoir accepté notre invitation.
C'était un plaisir, Frédéric. Merci à vous.
Merci à Carlos Amadjoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïca les lundis à 13h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Judaïca 90.2 FM.
והירח היה מלא כל הלילה וזה משאיר אותי למעלה תכתוב על ארבע קירות ברגע ולא די לה גל של הזיות בטבע מאבד מציאות לרגע איך בסוף היא תמיד חוזרת לעצמה ולא די לה שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם על עולה זיכרון ישן פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם על עולה ומראה פה זה חם וזה פוגע לא את הכל אתה יודע זה אותו האור שתמיד ליווה אותך ולא די לה פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם עוד עולה זיכרון ישן פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם עוד עולה ומראה שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם עוד עולה זיכרון ישן פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם עוד עולה ומראה לאן פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם עוד עולה זיכרון ישן שהשחר לא יפציע we'll be right back.
c'est la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici, tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur. Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la bébière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.